Salut les amis, bienvenue sur la chaîne du plein de super. On se retrouve pour l'épisode 3, déjà l'épisode 3 de Burn Baby Burn, le podcast qui vous raconte les plus belles heures de l'œuvre de John Byrne, le légendaire scénariste dessinateur qui a travaillé sur tout, que ce soit la Marvel, que ce soit DC, que ce soit chez les éditeurs indépendants, il a tout fait. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Miss Hulk, c'est sa petite favorite quelque part, la cousine du grand Hulk. Dont John Byrne a narré des aventures au début des années 90. Je suis Ringside, hein, vous m'avez sûrement reconnu, hein, et donc on va parler comics pendant un bon moment. Je suis accompagné du Lord of Babylon, Jérôme. Comment vas-tu, Jérôme? Bonjour.
Bonjour à toi. Eh bien, écoute, ça va.
Et Isaac est là également. Comment ça va, Isaac?
Bah écoute, ça va bien, je suis prêt pour une émission sauvage et sensationnelle.
Voilà, n'ayons pas peur des mots, la sensationnelle She-Hulk. The Sensational She-Hulk, c'est comme ça que s'appelle le titre dont on va parler longuement aujourd'hui. Pour ce qui concerne l'œuvre de John Byrne, son run, ça part du numéro 1 au numéro 8, qui ont été... publié, mise en vente de janvier 89 à août 89, avec des dates de couverture de mai 89 à novembre 89. Et John Byrne reviendra à partir du numéro 31 jusqu'au 46. Le 47 est infiligne et ensuite il fera les deux derniers numéros, 48-50, avant de passer la main à d'autres artistes. Ces épisodes-là, ça date de juillet 91 à février 93, avec des dates sur les couvertures de septembre 91 à avril 93, toujours selon la règle de mise en vente des comics, dont on vous a promis qu'on vous parlera un jour. Hein. Alors, au scénario, évidemment, John Byrne. Au dessin, je vous le donne en mille, John Byrne. À l'ancrage, on a quelques participations. Kim DeMulder, Bob Diacek et Al Gordon. Ça, c'est pour le premier run. Et ensuite, Kev Williams et John Byrne lui-même, évidemment. Pour la deuxième partie, aux couleurs, Petra Skottis, Glynis Oliver, George Roussos et Glynis Oliver aussi. On a en éditeur Michael Carlin. Et ensuite, Bobby Chase et René Winterstetter. L'un des directeurs en chef de toujours, au départ, c'est Jim Shooter, et ensuite, c'est Tom DeFalco. Le vrai départ, c'est pas Sensational She-Hulk numéro 1, mais bien le Marvel Graphic Novel 18, qui date de juillet 85. La date de couverture, c'est novembre 85, mais la mise en vente, c'est en juillet 85. John Byrne, qui est complètement amoureux du personnage de Miss Hulk, va d'abord publier un graphic novel. Alors, qu'est-ce que c'est un Marvel graphic novel? C'était une série de comics prestigieux, on va dire, d'albums, de one-shot, un peu classe, couverture cartonnée, beau papier, que Marvel a édité pendant les années 80. Tout ça avant qu'on utilise le terme galvaudé de roman graphique. Hein. Tout ça à la base, c'est d'abord les Marvel Graphic Novel. Un personnage, une aventure par généralement des auteurs un peu prestigieux. John Byrne, c'est d'abord un graphic novel, le 18. Qui nous raconte quoi? Qui nous raconte les aventures de Miss Hulk, qui est kidnappée par des rebelles du Shield, hein, qui veulent l'étudier. Et puis dans toute cette aventure, elle va aussi affronter un espèce de monstre à base de cafards. Et elle est accompagnée par Wyatt Wickfoot, hein, son compagnon qui est d'habitude un personnage un peu secondaire des Quatre Fantastiques. Alors voilà, il y a un premier essai sur ce graphic novel, on reviendra dessus, et donc ensuite on a la série où Miss Hulk retrouve son métier d'avocate. Hein. Alors Miss Hulk, c'est la cousine de Hulk qui a reçu une perfusion de Bruce Banner et qui du coup se transforme en Miss Hulk. Hein. Mais elle a tendance à garder sa forme de Miss Hulk parce qu'elle préfère vivre en tant que Miss Hulk que redevenir Jennifer Walters, hein, c'est ça. Alors bon, les aventures, parce que les scénarios, c'est pas vraiment les intrigues, c'est pas vraiment ce qui est le plus important dans la série. Mais en gros, elle va affronter tous les méchants de seconde zone de la Marvel, des méchants oubliés. On démarre avec le cirque du crime. On aura Mysterio. Alors eux travaillent pour une équipe de méchants scientifiques un peu maboule, les Headmen, qui ont pour spécificité d'avoir des têtes bizarrement placées sur des corps tout aussi bizarres. Qu'est-ce qui va lui arriver encore? Elle va aller affronter une colline qui a des yeux. Elle va aller dans l'espace. Elle va affronter des zombies. Elle va être piégée dans la télévision. À cause de l'horrible Dr. Bong qui contrôle la télévision. Elle va affronter des un peu des ersatz, des Skrulls aux confins de la galaxie. Elle va permuter de corps avec son acolyte parce que elle a une acolyte qui est en fait la blonde fantôme, une héroïne des années 40 qui a eu la particularité d'avoir vieilli puisqu'elle était absente des comics. Et qui aura pris un petit peu de poids. Hein. Et Miss Hulk va se retrouver notamment à un moment donné les corps échangés avec cette personne. Et puis après, bon, le dernier numéro, ce sera un numéro assez spécial qu'on va chercher. Miss Hulk va elle-même chercher un remplaçant à son auteur, John Byrne, qui est sur le départ. On aura aussi plein de sidekicks tout au long de la série, des héros aussi de troisième zone, comme Razorback, le super-héros routier. On aura US aussi, un routier de l'espace, qui tient un espèce de coffee shop dans l'espace, un restaurant routier. Spider-Man viendra faire aussi un petit passage.
Le moins connu de tous.
Le moins connu de tous, Spider-Man. Alors, c'est dans les années 90, du coup, il y a un look à la Todd McFarlane. C'est assez sympa. Voilà, en gros, il y aura l'homme taupe aussi qui viendra. Il y aura aussi Machismo, le méchant macho, qui vient de la planète des machos. Et son torse velu. Elle va mettre fin à la paix entre les sexes sur une planète dans une autre dimension. Hein.
Plutôt mettre fin à la guerre entre les sexes, plutôt que mettre fin à la paix entre les sexes.
Non, parce qu'ils sont en paix, à la fin, c'est la guerre, hein, quand elle s'en va. Hein. Ils sont,
oui,
oui, ouais, oui pour c'est eux, tout l'inverse. Pour eux,
c'est ouais. L'état de,
pour eux, c'est
de
normal.
C'est leur version du
voilà, s'engueuler, se foutre sur la gueule, c'est un peu normal.
Alors je rappelle, je vais pas mentir, je rappelle que j'ai pas lu les épisodes avant qu'on fasse l'émission.
Voilà, quelqu'un n'a pas révisé avant. Voilà.
Quelqu'un n'a pas
parce
fait
que
ce devoir.
Du boulot.
Voilà.
Et donc du coup, je fais que de tête ces épisodes.
Voilà. Donc c'est un challenge aussi pour Isaac.
Ton honnêteté.
D'ailleurs, vous aurez remarqué aussi que j'ai pas travaillé mon résumé. Hein. C'est pour ça que c'est un petit peu laborieux. Voilà. Mais le plus important, c'est, si vous voulez, comment on appelle ça maintenant, un métadiscours, c'est ça
ouais.
C'est-à-dire que Miss Hulk va casser le quatrième mur tout au long de la série. Elle va s'adresser aux lecteurs. Il y aura des discussions entre John Byrne et son éditeur. Tout au long de la série, il y aura, on va jouer avec les règles des cases de comics. Elle va traverser les cases, traverser les pages. On va se permettre tout ce qui est possible de se permettre quand on brise les règles un petit peu établies de la narration dans la bande dessinée. Et ça, tout au long de la série, c'est ce qui va faire le sel de cette série. Il y a notamment des couvertures aussi qui sont assez exceptionnel parce que c'est à chaque fois des coups entre guillemets publicitaires pour alpaguer le lecteur. Pardon,
Je dis, il joue bien là-dessus, justement, sur le côté appâter le lecteur. T'as notamment une fin d'épisode où elle se dit, bon, avec tout ce qui vient de m'arriver, normalement, on arrive sur l'épisode 5, dont je dois avoir le Docteur Doom qui doit arriver dans l'épisode 6, ou un truc comme ça. Et l'encart, c'est prochain épisode, le Docteur arrive. Sauf que dans l'épisode suivant, t'as un Docteur, mais c'est le Docteur Bong. J'aime bien cette manière-là de jouer sur le sur.
De jouer avec les attentes, ouais.
De faire des fausses promesses.
C'est ça. Voilà, on nous montre un petit peu l'envers du décor. Mais bon, très stylisé, hein, parce que c'est John Byrne qui nous en parle. Voilà, c'est ce qui fait le sel de la série. On va rentrer un peu plus dans le détail un peu plus tard, mais on va peut-être déjà commencer par la question que tout le monde se pose. Hein. Comment est-ce qu'on a découvert cette magnifique série ? Bah, je pense que c'est un peu pareil pour nous trois. C'était dans Nova, hein, en France.
Ouais.
Le graphic novel, il n'a pas été édité, lui. Hein. Graphic novel qui joue pas trop, lui, avec le quatrième mur. J'ai pas souvenir.
Non. Mais, il est plus ancien.
Plus sérieux.
Et puis, ouais, il est plus sérieux. Et puis c'était l'époque où Missile qui était dans les 4 Fantastiques.
Ouais.
C'est une première aventure réalisée et écrite par John Byrne. Mais oui, effectivement, on n'a pas ce côté. Je parle directement avec le lecteur ou avec John Byrne. Il y a des remarques rigolotes. Il y a
un peu de. Il y a de l'humour. On joue un peu sur le côté sexy de Missile.
Ouais. Mais il n'a pas encore trouvé le. En fait, il va le faire dans l'histoire qui est un prélude, qui est l'histoire qui introduit la série Miss Hulk, qui est dans Marvel Comics Presents, dans je ne sais plus quel numéro, qui est une histoire courte où c'est Noël et Miss Hulk s'ennuie. Et elle téléphone à la chose et d'un coup elle est attaquée par tous les plus grands ennemis du Marvel Universe, c'est Docteur Doom, il y a Magneto, il y a même Galactus dans une super case. Et en fait, tout ça, c'est on nous explique que c'est pas un rêve, mais en fait, c'est juste une élucubration parce qu'ils sont au téléphone avec la chose et qu'elle qu'elle lui dit j'aimerais bien qu'un super vilain vienne parce que là, je m'ennuie terriblement quoi, un soir de Noël. Et ça se finit par elle qui déballe ses cadeaux. Et dans ses cadeaux, il y a le numéro 1 de Missile qui sortait quelques mois plus tard.
Ouais, alors c'est une histoire de 4 ou 5 pages, mais elle vaut le coup d'œil, hein, parce que il s'éclate. Hein,
super,
on a dessiné tous les méchants, là. Il y a un crescendo, effectivement, jusqu'à l'arrivée de Galactus et tout. Ouais. D'ailleurs, elle avait été publiée en français, hein, je crois.
Ouais, dans un instant spécial origine, ouais.
Tellement, ça pouvait pas passer inaperçu, cette petite. Alors que c'est que un truc publicitaire pour vendre la série.
Ouais. Quand même, hein. Mais c'est vraiment, c'est super bien dessiné. De toute façon, la série, elle a déjà une touche, je trouve, en termes de dessin.
Ouais.
Il s'est vraiment concentré dessus, quoi, tu sens.
Ouais, ouais. Ben, à l'époque, il est un peu au top. Et effectivement, on voit qu'il s'applique à donner de la gueule aux comics, hein, ça c'est sûr. Surtout qu'il a bien normal le personnage et qu'il s'amuse à ramener beaucoup de personnages oubliés. Et puis il peut pas s'empêcher quand même de revenir à Jack Kirby assez souvent, surtout quand il va chercher des vieux méchants. Donc il va se faire encore plaisir à réécrire, à redessiner certaines pages, certaines histoires de l'âge d'or de Marvel. Hein.
C'est totalement ça. Ouais, ouais.
Et on sent encore il est tellement fort, quoi.
Ouais. Tu sens qu'il j'ai l'impression qu'il se fait beaucoup plus plaisir là que sur d'autres séries où, sans dire qu'il le fait par obligation, mais par exemple la Division Alpha, qui est une série sur laquelle qu'il voulait pas forcément faire, et qui pourtant il fait énormément de choses assez fortes. Hein. On avait déjà fait une émission là-dessus. Mais là, tu sens qu'il y a vraiment, tu sens qu'il aime le personnage. Faut dire à la base, c'est un personnage. Alors si je dis pas de bêtises, bon, au départ, c'est une première série, donc c'est un She-Hulk qui fonctionne pas du tout, parce qu'on est sur le même, on fait exactement le même modèle que Hulk, donc un personnage sauvage. Les gens ne savent pas qui She-Hulk, c'est Jennifer Walter. Elle se fait poursuivre par son père d'ailleurs. Mmh. Et du coup, la série s'arrête. Et alors, bon, je ne sais pas trop en termes d'année, mais en fait, là où le personnage commence à aller vers l'issue qu'on connaît, c'est dans les Vengeurs, quand on intègre les Vengeurs, et on en parle dans les Vengeurs qu'on traite, hein, de Stern. C'est déjà là qu'il commence déjà à le poser comme une personne. Ou en gros, Jennifer Walters, c'est l'inverse de Hulk, c'est-à-dire qu'elle est heureuse d'être Miss Hulk. Miss Hulk, c'est pas une autre personnalité, c'est elle-même, quoi. C'est Jennifer Walters, Miss Hulk, point barre, quoi. Mm. Et je pense que c'est dans ce traitement-là que Stern lui fait, donc cette espèce de femme qui assume totalement son corps, qui est incroyablement drôle, qui est forte, qui est puissante, qui est en plus très empathique, je trouve, avec les autres, avec ses autres collègues,
oui.
Qui est surtout une femme qui s'assume totalement dans sa sexualité et tout ça, sans être jamais une potiche ou objectisée. Et du coup, je pense que c'est là que Byrne craque pour elle, et il l'a fait demande. Enfin, je sais pas trop comment les tractations se font, mais en gros, il l'a fait venir dans les Quatre Fantastiques pour remplacer la chose au terme de Secret Wars. Mm. Et dans les Quatre Fantastiques, et je termine juste là. Je trouve que même dans les Quatre Fantastiques, c'est intéressant parce qu'en plus, elle a un regard extérieur qui, en plus, elle arrive au moment d'un drame. Et je trouve que justement c'est cette empathie-là qui fait que le personnage devient vraiment encore plus fort. Et de l'avoir brossé de manière très sérieuse comme un membre vraiment des Quatre Fantastiques, tout ça, fait que quelques années après, quand il arrive et qu'il décide de se dire bon, ok, maintenant avec cette série, je vais faire une série comique avec un personnage, on pourrait dire sérieux. Mais je vais faire une série incroyablement drôle et je vais briser tous les codes. Et du coup, ça fonctionne parce qu'il a travaillé sur Miss Hulk pendant des années déjà avec. Et ouais. C'est ça qui fait que la série fonctionne incroyablement dès les premières pages.
Ouais, je crois ouais. que tu as dit sur l'empathie, c'est vraiment ce qui fait déjà que ça fonctionne quand il remplace la chose par Miss Hulk. Parce que tu as cette même empathie avec la chose.
Tout à fait.
Ben Grimm, c'est quand même celui dans l'équipe et même dans les super-héros en règle générale, qui est toujours prêt à tendre la main, qui est toujours prêt à prendre un peu la place des ennemis. Parce que lui-même, ouais, il est dans un corps de monstre et il a été mal jugé par la population. Et Miss Hulk, elle le remplace bien, je trouve, dans cette dynamique. Bizarrement, on fait très peu référence à Hulk, alors que c'est quand même son cousin.
Ouais, ouais. Je sais même pas si on le voit une fois dans la série.
Ouais,
quelques flashbacks, mais il n'intervient pas en tant que guest star en tout cas.
Ouais, voilà, ni dans les Quatre Fantastiques, ni dans la série. On le voit de dos dans le graphic novel, puisqu'on voit l'origine au départ, en fait, où on explique. Enfin, on voit même pas l'origine. On voit même pas l'accident de voiture et l'attentat sur sa vie, la transfusion de sang. On voit en fait quand ils se rencontrent pour la première fois, Jennifer et Bruce Banner, quand ils sont gamins. Mm. Et on voit je crois que c'est Bruce Banner de loin et Jennifer de dos dans la première page du graphic novel. C'est vrai qu'il y a très peu Hulk. Par contre, ouais, il en fait un personnage complètement en trois dimensions. Et le fait de rajouter ce côté métadiscours, ça fait en plus un personnage en quatre dimensions. C'est-à-dire qu'en plus, elle est consciente d'être dans un comic book. Et je crois que c'est vraiment de ce que tu as dit, Jérôme, c'est-à-dire le fait qu'elle soit tellement en phase avec les autres personnages, elle est tellement maligne que c'est évident qu'elle ne peut que se rendre compte qu'elle est un personnage de BD. C'est-à-dire c'est là où je trouve que c'est un peu la différence avec, avec d'autres personnages qui ont utilisé cette idée-là du quatrième mur. C'est qu'elle, ça renforce le fait qu'elle est intelligente, quoi. Elle est plus maligne que les autres. Elle est plus... tu te dis, ouais, c'est logique. C'est logique parce que elle est, c'est pas... C'est pas comme Tony Stark ou Reed Richards, c'est pas quelqu'un qui est un génie scientifique. Par contre, c'est déjà une avocate. Elle a réussi à être un membre important des Vengeurs, un membre important des Quatre Fantastiques. Et c'est une avocate. Donc, c'est quelqu'un qui est d'un certain niveau, effectivement, de intellectuel et de personnalité. Et c'est ce qui en fait... C'est ce qui en fait un personnage un peu unique déjà chez Marvel. Et puis qui fait aussi une série unique chez Marvel parce que c'est une série où effectivement on n'a pas ce côté jeu sur la double personnalité que tu as souvent chez Marvel où la carrière de super-héros entre en conflit avec la vie privée des héros. Enfin, ce qui était le cas quand nous on les lisait maintenant. Mais je pense que ça vient aussi, et là je rebondis sur ce que tu disais Jérôme par rapport au plaisir qu'il a d'être sur la série, du fait que ça s'est tellement mal passé sur Superman, parce que c'est la série régulière qui fait juste après Superman.
Oui, ouais, faut dire, voilà, c'est en son retour, ouais.
Et sur Superman, il a aussi un personnage qui est sûr de lui, qui aime sa double identité, qu'il assume totalement, qui assume totalement qui il est, qui était aussi une différence par rapport au Superman pré-crisis. Il n'y a pas de duel d'identité, c'est quelqu'un qui s'assume. C'est moins rigolo, forcément, c'est moins. Mais tu sens que ça lui a pesé un peu la soupape éditoriale au-dessus de Superman, et que là il est très content en fait d'avoir un personnage de second plan avec qui il peut faire un peu la même chose qu'avec Superman, c'est-à-dire avoir quelqu'un qui est hyper confiant et de récupérer un peu tous les super vilains pourris en fait pour c'est ce qu'on disait déjà à propos de Namor, d'avoir en fait des personnages dont personne va s'occuper. C'est-à-dire pour pas être obligé en fait de se retrouver en plein milieu d'un crossover cosmique, ou alors d'avoir à expliquer pourquoi est-ce qu'il a Magneto alors que Magneto il apparaît tout le temps dans les X-Men et New Mutants à la même époque et ainsi de suite. Et le fait d'aller chercher tous ces personnages un peu pourraves fait que, c'est totalement cohérent dans l'univers comique de la série, et deux, ça lui permet de se lâcher complètement, et de faire ce qu'il fait toujours chez Marvel, c'est-à-dire de dessiner, lui, son Marvel Universe.
C'est ça. C'est ça qui est vachement fort, parce que il s'était déjà un peu amusé à briser le truc avec le procès de Reed Richards où il est lui-même un protagoniste. Il est à la fois il fait l'avocat, le protagoniste de ce procès même. Mais ce que j'apprécie moi dans Miss Hulk, et ce que même après on trouve pas avec cette idée de casser le quatrième mur, c'est que il le fait. Alors il le fait avec plaisir, mais il le fait avec talent. Il s'amuse avec plein plein d'aspects, on y reviendra, hein. C'est pas que Miss Hulk qui regarde, qui parle à Byrne ou qui regarde le lecteur pour lui dire un truc. Il y a vraiment une multitude de trucs. Et c'est l'idée de que ça concourt toujours à pousser l'univers Marvel vers le haut. Parce que quand il fait revenir, par exemple, US ou Razorback, je veux dire, ça c'est moi quand je l'ai lu la première fois, je les connaissais pas ces personnages, mais en lisant ça, j'avais envie de lire leurs aventures avant. Ouais. Moi, j'avais tu vois, Fantôme Blonde, Wheezy, je vais utiliser Wheezy parce que c'est comme ça. Moi, j'adore Wheezy. Enfin, pour moi, c'est un des meilleurs comparses de super-héroïne qu'il ait fait parce qu'elle est incroyable. Enfin, tu sens la connexion quoi, du truc. Et c'est que des personnages qui les poussent toujours vers le haut. Ils poussent Jennifer Lowe, mais elle est déjà là. Mais tous les autres sont là. Et ça concourt un véritable plaisir de lecture parce que. Et c'est comme ce qu'on disait quand il faisait. Namor ou d'autres, quand tu lis du John Byrne, tu lis l'univers Marvel. Et là, tu le retrouves aussi. Moi, un de mes épisodes préférés, c'est avec Krag, avec la colline. La colline,
la colline qui revient.
Il bouche et peut-être même un nez. Moi, je trouve que c'est le meilleur titre d'épisode qui existe au monde. Et c'est génial parce qu'il reprend un vieil épisode de Kirby et il t'en fait un truc hyper fort et hyper.
Là,
bon,
il va chercher même avant l'époque des super héros quoi. On est dans les.
Il va dans le comique de monstres.
C'est ça. Team Marvel,
avec le avec le scientifique héros et tout. C'est là qu'il se permet. En fait, je trouve une des parenthèses. C'est là parce qu'il profite de toute la série pour commenter tous les particularités ou les tics de comics de super héros. C'est-à-dire que quand le scientifique qui parle est à Wheezy qui lui dit mais alors attendez, vous êtes géologue et en même temps vous avez créé un dispositif électrique pour tout ça, et Missy qui fait mais tu sais c'est dans l'univers de Marvel, à n'importe scientifique de toute façon c'est un scientifique, il sait tout, il fait regarder en film, le mec il est biologiste, il a construit le tronc, donc j'aime beaucoup ça parce que c'est pointer du doigt un truc hyper drôle mais c'est jamais pour s'en moquer, c'est vraiment pour En fait, c'est pas pour manquer, c'est on rit du truc, mais en fait, derrière, il en fait toute une aventure avec Krag. Voilà. Et une aventure hyper passionnante, vraiment passionnante. Hein, c'est... Et puis, c'est beau. Enfin, ça, j'y reviendrai, je pense, plusieurs fois. Je trouve aussi que ça fait partie de ses meilleures prestations en termes de dessin. Ça éclate tout. Vraiment.
On sent qu'il a envie de régler ses comptes un peu avec le business, mais sa passion pour, je crois, l'univers Marvel et les comics en général dépasse le truc, et du coup il repart tout de suite dans un truc de dommage. Il va quand même descendre un petit peu les trucs, les petites mauvaises habitudes.
Il y a plein de pics, il y a des taquets, mais ça fait pas le mec aigri.
Non, parce que derrière, il va te ressortir des personnages complètement oubliés. Il y a le Rocket Raccoon qui fait une apparition aussi. Oui. Avec, à l'époque, il était complètement oublié, hein, le Rocket Raccoon. Et à chaque fois, il les réhabilite du mieux qu'il peut. Comme tu dis, il va aller rechercher la colline, le monstre. Qui vient même d'avant l'époque des super-héros, il y a toujours cette passion pour l'univers de la bande dessinée qui transparaît. Et puis la mise en valeur du personnage de Missel qui est fascinante, ouais. Du début à la fin de son run. C'est vrai que... Alors, je ne sais pas s'il y a un précédent de comics comme ça... chez Marvel, peut-être Howard the Duck, qui, j'avoue que j'en ai pas lu beaucoup. Je sais pas si il parlait quand même avec les lecteurs, non, Howard the Duck à minimum. Ou...
Ouais, il y a carrément Steve Gerber qui parle aux lecteurs dans un épisode parce qu'il a raté une deadline. Donc en fait tout l'épisode est composé de textes pour expliquer ce qu'il pourrait faire pour rattraper le coup. Mais là, par contre, on est dans quelque chose d'un peu plus sombre, un peu plus.
Là, on est plus aigri quand même.
Pas tellement aigri à l'époque, mais plutôt satirique. Plutôt sardonique, plutôt. C'est les années 70, on démolit les institutions, il y a Nixon à la présidence. Enfin, voilà, on est dans cette même ambiance qui va donner, par exemple, le National Lampoon, qui va donner. Tu vois, jusqu'aux As, quoi. Mais c'est plus bon enfant chez Byrne. Il y a un côté, on revient toujours de toute façon au classique, ce que dit Jérôme est vrai. On revient à Krag, on revient. Il y a les extraterrestres effaceurs, là, qui étaient d'un épisode de Giant Man, là, qui sont mortels. Il nous refait le coup des pages blanches. Flight, parce que c'est des extraterrestres qui en fait effacent les personnages pour les transformer dans une dimension, donc du coup en fait ça efface tout le décor et il n'y a plus rien à dessiner, quoi. Je crois qu'il ressort encore une fois les hommes asperges avec le rayon qui transforme en pierre les individus, donc les hommes asperges on les avait dans les Avengers numéro 4, on expliquait que c'était eux qui avaient inventé la légende de la méduse. Et ils se sont fait bouffer par le Phénix Noir dans la saga du Phénix Noir, et c'est d'ailleurs pour ça que Jean Grey est morte. Donc en plus, il y a un côté je me venge de ce qui s'est passé. Mais moi, pour plus que... C'est pas de l'aigreur et c'est pas de... Parce que je pense que c'est plus un soupir de soulagement, Missel.
Ouais, ouais.
Il lâche du lest, il a plus. C'est pas John Byrne qui va chez DC Comics et qui est obligé avec Superman de faire le titre numéro 1 parce qu'il a une institution entre les mains et il a la moitié du staff de DC qui est complètement hostile par rapport à sa venue, tu vois. Donc ça c'est un vrai problème quoi pour lui, alors que chez Marvel, à part Jim Shooter, tout le monde lui mangeait dans la main quoi, parce que c'était la star maison. Là, il revient, c'est plus la star maison, parce qu'effectivement, il y a les petits nouveaux qui sont en train de monter. Comme
c'est l'explosion des dessinateurs qui vont fonder Image. Hein. McFarlane, comme je le disais, Liefeld, Jim Lee.
D'ailleurs, il imite le style de Liefeld sur quelques pages et tout, ça va mourir de rire. Et voilà, il est plus en position de numéro 1, il prend des personnages qui sont complètement rincés. Mais tu sens qu'il s'éclate, quoi, effectivement. Tu sens qu'il s'éclate, il fait quelque chose du jamais vu. Et c'était ce que. Alors, lui disait dans une interview, il disait que c'était Mark Grunewald qui lui avait dit ben écoute, si tu veux faire une série Missile, tu l'as fait, mais tu fais quelque chose qu'on n'a jamais vu. Tu trouves quelque chose, en fait, qu'on n'a jamais vu. Et il a dit c'est en rentrant chez lui, il a pris le métro dans New York, il regardait tous les gens en métro et il se disait mais mince, en fait, j'ai compris. C'est... En fait, elle sait qu'elle est dans un comic book. Et il a dit ça m'est venu comme ça. Et c'est à partir de là qu'il a eu cette idée. Il peut remettre, en fait, du coup, au-delà de son amour pour Jack Kirby, il peut remettre aussi son amour pour Karl Barks, il peut remettre son amour aussi pour les Monty Python, les dessins animés.
Ouais, les Hanna-Barbera, il se fait plaisir en les dessinant aussi.
Mon épisode préféré, moi, c'est celui où elle est coincée dans la télé avec le Dr. Boom, parce que... C'est t'as les Simpson,
t'as les pierres à feu, les Jetson et tout.
Ouais, voilà.
Il y a Yogi l'ours qui mange les gens.
Il y a Robocop. Il y a une série où tu perds des dessins de Robocop, quoi. Et t'as même le gamin, j'adore parce que le gamin dit le dessin animé il est vraiment moins bien que le film. tu te tais parce que c'est un dessin animé produit par Marvel, donc si tu veux.
c'est ça qui est vachement drôle, quoi.
Et t'as l'exemple de ce que tu disais, Jérôme, sur les trouvailles. C'est pas simplement Missile qui discute avec le public, ça va être Missile qui arrache les pages de comics pour aller plus vite et elle tombe au milieu en fait des guides de prix.
Il est terrible ce truc là.
Ouais. Et où en fait il a fait un faux guide de prix avec des remarques en fait sur les séries. Les séries New Universe, il disait mais ça existe encore ce truc là.
Celui-là il faudrait me payer pour. C'est moi qui te paye pour.
T'as les
moi qui te paye pour que tu les apprennes. Ouais.
T'as les mutants. Et tous les comics X-Men, c'est des mutants.
C'est génial. Mais moi, c'est ça que j'aime beaucoup. Ça fait partie de ça. C'est pas quand on dit ça casse le quatrième mur, c'est pas juste Missile qui va parler au lecteur ou qui va parler à Byrne. Déjà, elle parle à Byrne, mais il y a une espèce de complicité que je trouve incroyable. C'est comme si en fait, Missile, c'était sa muse. Et la muse qui connaît tous les trucs de Byrne et qui lui dit à un moment, c'est bon, quoi. Tu vois, parce qu'en parallèle, il fait des séries sérieuses chez Marvel. C'est l'époque où, les premiers épisodes, c'est l'époque où il reprend les Vengeurs de la Côte Ouest et il fait les Vengeurs. Et les Vengeurs de la Côte Ouest sous Byrne, c'est quand même assez gratiné avec la destruction de Vision, avec Wanda et tout ça. Et le deuxième partie, quand il reprend Missulk, c'est au moment où il fait Namor et il reprend Iron Man. Donc c'est des séries hyper sérieuses, quoi.
Ouais. En plus, avec des persos masculins super affaires.
Voilà, et tout ça. Et je vous renvoie à l'émission qu'on avait fait sur Namor, où il profite de la série pour lancer une grande saga avec plein de rebondissements pour faire revenir Aaron Faust. Et dans Missouk, il se moque de ça. Et c'est ça que j'aime bien, parce que ce côté de lancer plein d'intrigues secondaires, où à chaque fois. Et d'ailleurs, elle dit attends, c'est le moment de lancer une intrigue secondaire, comme ça, moi, je peux aller me changer, ou je peux arriver dans le bureau là-bas, parce qu'il y a l'autre bout de la ville.
Ouais, souvent, quand il y a du chemin à faire, il en profite pour ajouter un super.
Du coup, Missouk, ça devient aussi le personnage qui note les travers d'un auteur de comics et les travers que Byrne peut avoir. Quand justement, ce que tu disais, l'épisode où on revoit les cases blanches, Misuke déchire la page pour apparaître, elle nous refait le même coup qu'à Firefight, ça va, tu te fais pas chier, quoi, quand même. Et c'est ça qui rend le truc vraiment, vraiment agréable à lire. C'est drôle, et c'est surtout, on se prend pas au sérieux à être drôle, et j'en profite moi-même pour se moquer. Moi, voilà, pour se moquer et pour même.
Son autocritique.
Faire ma propre critique sur mes propres tics et tout. Et je trouve ça. Et en plus, c'est doublé d'une autre chose que moi j'adore. Enfin, en tout cas, qui m'a sauté aux yeux à cette relecture. Ça fait vraiment un gros making-of d'un comic. C'est surtout un espèce de propos sur qu'est-ce que c'est qu'est-ce que la continuité dans l'univers Marvel et qu'est-ce que c'est la temporalité. Justement, qu'elle te dit, et du coup, ça te montre des astuces de scénario, comme justement faire une intrigue secondaire d'une page, et comme ça justifie de comment mon personnage change de décor, alors que peut-être géographiquement, ça tient pas route, mais ça fonctionne dans ta lecture. Et du coup, c'est de te faire réfléchir à comment on gère une temporalité dans une bande dessinée entre deux cases. Et tu l'as même au sein du truc avec le personnage donc de Wheezy qui explique qu'elle était la blonde fantôme dans les années 40 et que Misu lui dit mais c'est fou parce que tu as 50 ans. Bah oui, comme j'apparaissais plus dans les comics, bah j'ai vieilli. Il fait les personnages de comics quand ils apparaissent dans les comics, ils ne vieillissent pas. Il fait mais moi je vieillis. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je t'ai fait venir pour être dans ton comics pour arrêter de vieillir. Et c'est ça que je trouve. Et c'est excellent. Et du coup, ça devient un véritable. Limite peut-être un manifeste sur comment tu dois gérer la continuité et la temporalité dans tes comics sans user d'autres artifices. Enfin, c'est sa propre manière de concevoir la chose, quoi. Et du coup, tu mêles ça à de l'humour plus de l'aventure, ça te fait un cocktail assez détonnant, quoi.
Et même du drame, parce que t'as brièvement, on parle du mari de Wheezy qui aussi a vieilli, et elle nous explique qu'ils attendaient leur retour dans le monde de Marvel quand ils ont vu l'explosion des super-héros et le retour de la mode Marvel, etc. Ils ont attendu, c'est jamais venu, et son mari est décédé de vieillesse.
Ouais, totalement.
Donc ça donne tout de suite de l'épaisseur au personnage, alors que tu parles d'une blagounette sur « Ah oui, les personnages, ils vieillissent pas dans les comics ». Mais John Byrne a tout de suite le génie de rajouter tout de suite un peu de dramaturgie, d'épaisseur au personnage. C'est tout Exactement. Le génie de Byrne. Hein.
Là aussi où je trouve le Byrne est très fort, c'est qu'il se moque même du fait qu'il fait un comic book rigolo.
Ouais.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a Miss Hulk qui est... sa tête est découpée. Enfin, on croit que sa tête est découpée de son corps. Il fait la même astuce que dans Namor, d'ailleurs. Avec,
exactement, ouais.
La tête est découpée de son corps par les Headmen. Et il y a toute une page où, en fait, il dit « j'ai rien à faire. Ah, on est dans un comic book marrant. Bah, je vais raconter une blague. » Elle raconte une blague toute pourrie. Elle se prend une tarte à la crème dans le... Donc, même lui... En fait, il se moque du fait qu'il a mis un procédé de « Ah ouais, on fait le... » En fait, c'est le comic book rigolo de chez Marvel, quoi. Donc, il sait complètement... Effectivement, il est complètement en maîtrise du projet de départ, mais aussi, comme c'est lui, en fait, qui décide de tout, il peut effectivement virer à 180 degrés la série, parce qu'il y a ce moment touchant aussi où Jennifer Walters redevient... Miss Hulk redevient Jennifer Walters pour une nuit de Noël, pour que son père la voie comme
elle était.
Voilà, avant sa transformation. Moi, ce que je trouve assez fort, c'est que Byrne est quand même en pleine possession de ses moyens. Donc, il sait à la fois maîtriser le projet et en fait faire la propre critique de son projet. Et finalement, en fait, il y a quand même un thème qui se dégage de toute la série, qui est la confrontation entre le réel et l'imaginaire. C'est-à-dire, c'est constamment ça, en fait. C'est qu'est-ce qui est de l'ordre qu'est-ce qui est de l'ordre, par exemple, de la continuité Marvel, qu'est-ce qui ne l'est pas. Pourquoi on vieillit dans la continuité Marvel, pourquoi on ne vieillit pas, pourquoi est-ce qu'on peut aller d'un lieu à un autre. Et même dans les intrigues en tant que telles, il y a... l'intrigue avec les hommes crapauds, Mmh. On s'aperçoit en fait que c'est un gang qui est engagé par Mysterio. Mmh. Donc il y a même des fausses invasions aliens en fait des personnages. Alors ça c'est pareil, c'est très classique chez Byrne hein, d'utiliser ça, c'est-à-dire que t'as pense que tu as un adversaire, mais en fait l'adversaire c'est pas celui que tu pensais. Il y a quelqu'un d'autre derrière et il y a des faux adversaires, mais ça parcourt toute la série, et ce qui fait que ouais le tout est quand même assez cohérent. On a une vraie vraie œuvre d'auteur en fait. C'est assez intéressant pour le noter parce que on a tendance généralement que ce soit dans n'importe quel art de divertissement à pas considérer les comédies. Les comédies généralement c'est pas ceux qui ont c'est pas les films qui ont les Oscars, c'est pas les films qui finalement tu t'aperçois que ouais c'est peut-être du retour de Byrne chez Marvel celui qui est le plus à même en fait de montrer toutes ses qualités en tant qu'auteur, tous ses thèmes, toutes ses obsessions. C'est quand même une série qui, je trouve, sort du lot, quoi. C'est une de mes préférées, en tout cas, de Byrne en tant que telle. Mmh. Et il y avait déjà cette espèce de... Tu sentais que le personnage avait déjà mis... en fait, avait remis un peu sur les rails la série des 4 Fantastiques. Il avait redonné un petit peu un coup de boost, un petit coup d'imaginaire. Voilà, qu'il était... même si on n'était pas du tout sur la même on n'était pas du tout sur le même ton quoi. On est sur deux séries qui ont un ton complètement différent, pourtant tu arrives à caler le même perso. Ça c'est aussi quelque chose qui est assez, qui est assez fort.
Ouais, il reste vrai avec le personnage tout en apportant un nouvel aspect qui sera plus comique que le reste, mais à aucun moment donné il se laisse aller à la facilité, encore une fois, sur la série. C'est-à-dire qu'à chaque fois il va trouver des nouvelles astuces, des nouvelles formes d'humour, des nouvelles règles avec lesquelles jouer, tout en fouillant l'univers Marvel, en faisant des vraies intrigues avec des rebondissements. Puis même au niveau des dessins, il n'y a pas de laisser aller. Il va reprendre son papier spécial là qu'il utilise sur Namor, ce qui va rendre les dessins encore plus classe. Il va même le mentionner dans le truc.
Oui, c'est
vrai qu'il reste des chutes de papier. Il reste des chutes de papier, alors je vais pouvoir en utiliser. Mais au bout d'un moment, il explique qu'il n'y en a plus, donc on revient à la méthode normale.
Ça, je pense aussi que c'était un doigt d'honneur à Jim Shooter, dans le sens où Jim Shooter était partisan vraiment d'un découpage qui était très clair, très simple. Et tu vois que sur Missile, que Byrne, il va se lâcher. Un épisode sur deux à modifier la composition des pages, où il y a tout un épisode où il insère des hommages à des artistes avec Miss Hulk qui est dans des poses et dans des costumes qui sont inspirés d'autres
de tableaux ou de photos.
Voilà, ouais.
Des splash-pages comme ça. Hein. Il se fait rappeler à l'ordre aussi par
son éditrice. Ouais, parce que du coup, il dessine beaucoup plus vite. En fait, il fait très peu de BD par rapport à ce qu'on lui a demandé. Mais il y a le fameux aussi épisode qui commence avec la... Donc, on avait parlé déjà de l'épisode qui commence avec la parodie de Rob Liefeld. En fait, il reprend tout le découpage d'un épisode de X-Force pour faire monter les ventes. Il imite aussi le style. Et puis, il y a un autre épisode où c'était une blague dans le courrier des lecteurs pour faire monter les ventes. Je ne sais plus si c'était un lecteur ou si c'était lui qui avait proposé. Parce que dans le courrier des lecteurs, en fait, Miss Hulk répondait au courrier des lecteurs. Elle allait même jusqu'à répondre au courrier des lecteurs. Et elle avait dit que pour faire monter les ventes, ce que je vais faire, c'est que je vais faire de la corde à sauter nue. C'est tout ce qui me reste à faire pour faire remonter... Les ventes, puisque la question des ventes, c'est aussi quelque chose qu'on a dès la couverture du numéro 1.
Qui est une référence à... Vas-y, excuse-moi.
Ouais, Bissol tient la couverture du Savage She-Hulk numéro 1 qui dit, bon, bah écoutez, les gars, maintenant c'est votre deuxième chance. Hein. Soit vous achetez mon comic book, soit je viens chez vous et je déchire tous vos X-Men.
Ça fait très National Lampoon cette couverture. Ouais. La célèbre avec le flingue sur la tête du chien en disant, si vous l'achetez pas, on abat le chien, quoi.
Ouais, voilà. Et du coup, il y a un épisode où le début, c'est elle qui fait de la corde à sauter nue. Ouais. Et la corde à sauter, en fait, cache les parties intimes de Miss Hulk. Mais c'est assez rigolo, quoi, la façon dont c'est fait. Parce que ça aussi joue beaucoup avec le fait des limites du Comics Code, de la nudité, du fait que Miss Hulk, c'est quand même... C'est une grande et belle femme, c'est un vrai canon, et il change de... Il y a des épisodes où on la voit, par exemple, sur toute une page, changer de costume, tester des tenues de ville différentes.
Ou alors elle prend des poses lascives pendant qu'elle raconte le résumé des
épisodes précédents. Ça m'a fait rire aussi.
Elle se fait rappeler à l'ordre aussi.
Ça c'est pas mal parce que ça joue aussi sur le côté puritain, comme tu dis, du comic code, et en même temps, tout en ne niant pas le caractère de sex appeal du personnage. Moi, c'est ça que j'aime bien, et d'ailleurs, c'est en ça que je fais. Moi, j'aime pas trop les discussions quand on pointe du doigt que tel ou tel personnage est sexualisé. J'ai envie de dire que tous les persos de super-héros le sont parce que c'est des incarnations idéales d'être, que ce soit homme ou femme. La grande différence étant que Miss Hulk, c'est pas un objet, quoi. Elle est sexualisée, enfin en tout cas elle a un beau corps et on joue sur ses avantages physiques, mais c'est pas c'est le personnage principal et que c'est un personnage qui n'est pas une potiche et qui n'est pas justement une faire-valeur ou quoi que ce soit, ça enlève ces critiques là justement, enfin ces critiques là qui sont en avenue pour ce comics le coup de la corde à sauter est très drôle parce qu'elle se conclut sur l'éditrice qui arrive et qui enlève la corde à sauter et tu remarques qu'en fait elle était en bikini et que de toute façon elle cachait en fait enfin justement il dit le gag étant que justement on va pas jusqu'au bout du truc, quoi.
Oui, c'est là-dessus que je voulais rebondir. Et puis le fait aussi que tu ne lis pas la série que pour ça, en fait.
Voilà.
Tu ne lis pas la série que parce que le personnage, il la met en valeur. Mais tu lis vraiment parce que c'est drôle et puis parce que le personnage est super sympa. En fait, à la base, c'est un vrai personnage. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a aussi un passage où, quand elle combat Machismo, où c'est Wyatt Wingfoot, donc son pote... son pote natif américain, donc c'est son boyfriend, quoi, qui est torse nu. Y a Miss Hulk qui dit on peut le laisser parce que lui a besoin d'une chemise. Et t'as Miss Hulk qui fait on peut le laisser quand même un peu torse poil là, juste que pour que mes lectrices puissent aussi se rincer l'œil.
Et c'est très drôle, hein, justement, parce que on peut rester le temps qu'on veut sur cette case, justement. Donc, du coup, ça te joue là-dessus. Enfin, toujours dans cette
idée de la temporalité. Ça joue, oui, sur le plan, la temporalité, le fait que la blonde fantôme, en fait, Weezy, quand Byrne la dessine comme une femme âgée, qui a du poids, Et il y a d'ailleurs toute une discussion sur les personnages en surpoids dans les comics. Comment on les dessine, puisque à un moment donné, elle retrouve un peu la ligne.
Elle retrouve la jeunesse et la ligne comme c'est Spitfire hein, dans Namor.
Spitfire chez Namor, Sauf que effectivement, Spitfire, en fait, c'est ça qui est assez amusant, c'est que la série Namor est censée être une série plus réaliste, parce qu'il n'y a pas ce jeu avec le quatrième mur, il n'y a pas ce côté déconne. Par contre, effectivement, quand Spitfire elle rajeunit, elle devient le modèle de d'ado tel qu'on l'a dessiné dans les comics, c'est-à-dire plutôt une pom-pom girl, quoi. Alors que Weezy, quand elle rajeunit, en fait, elle a toujours en fait ses kilos en trop.
Elle va les récupérer assez rapidement parce que.
Oui, c'est ça. Oui, c'est
voilà.
Vrai,
elle
c'est
va,
vrai.
Elle va aller.
Oui, effectivement, oui.
Elle va s'absenter du comics parce qu'elle a une romance avec le père de Miss Hulk. Et quand on la retrouve quelques mois plus tard, elle a repris des kilos.
Ouais. Et après, elle en repère un peu.
Parce qu'elle va s'expliquer avec John Byrne.
John Byrne, ouais, voilà.
Ah, c'est trop. Et à un moment, moi, je lisais la série. Ce qui me passionnait dans la série, c'était justement l'histoire entre Miss Hulk et Wyatt. Moi, j'aimais beaucoup, et c'est en ça vraiment que la série est drôle et tout, et en même temps, tu t'attaches vraiment au personnage, et moi, j'adorais de retrouver, justement, en plus, elle intègre le fait que le personnage revient dans la série, et t'as cet épisode, justement, où elle parle avec lui, qui est une espèce de... Tu sais, c'est vraiment les discussions d'un couple qui se... Enfin, de un peu, tu sais, on s'est tourné autour, on a une histoire, mais on est...
Ouais.
Nos chemins sont bifurqués et on revient un peu plus mature, donc du coup, on a une discussion vachement mature pour poser un peu les bases d'une relation plus saine et qui est en même temps dans la manière que, enfin, dans ce que dit Miss Hulk, c'est en même temps un discours sur le fait de dire tu vois, t'étais plus là parce que Burn ne voulait pas que tu sois présent ou l'éditeur voulait que je sois seul et tout, mais quand même, tu m'as manqué et tout ça, et ça devient, et c'est hyper touchant et en même temps, très. Très méta, puisque en fait, toute la base de cette discussion, c'est que des conciliations réelles et éditoriales, et se finit en plus sur un gag super drôle en disant bon, on va passer à autre chose parce que là, ce qui me vient en tête, on peut pas le passer dans un comic, du truc, quoi, tu vois, et ça te mélange tout le truc, quoi. C'est vraiment très très bon ce passage là, par exemple, encore.
Ouais, il est super bon. Voilà, une fois de plus, il joue sur les deux tableaux. Sur le fait que t'as du sérieux et t'as de la déconne vraiment sur le même plan, quoi. D'autant qu'il jouait aussi avec... il devait faire venir Hercule.
Ouais.
Qui l'amène, en fait... C'est là où je pense qu'il règle aussi ses comptes avec Superman. C'est qu'il ramène Hercule de la même manière que Superman et Wonder Woman se tournaient autour dans les épisodes qu'il avait dessinés. Puisque Superman faisait des rêves où il rencontrait Wonder Woman. Et là, c'est pareil, au début de la série, Miss Hulk n'arrête pas de rêver de Hercule dans différentes situations, quoi.
Sur la première partie de la série, il fait venir un personnage qu'on ne voit pas après, mais il fait venir l'Excluthor, en tout cas, ou une copie de l'Excluthor.
Ouais. Est-ce qu'on sait pourquoi il s'en va au numéro 8
d'ailleurs. Conflit avec l'éditeur, ouais. Je crois qu'il y a eu un conflit... comme d'hab sur les storylines, à tel point que quand il revient, donc Renée Whittle-Slater, je crois que c'est à la fois une éditrice et puis c'est devenu aussi une agente de.
D'accord.
Je crois qu'elle s'occupe par exemple de la carrière de Michael Golden, elle gère tout ce qui est quand il fait des commissions, des choses comme ça, quoi, et des apparitions dans des conventions. Donc je pense qu'il a mis en place son éditrice quand il est revenu sur la série. Et ce qui est très drôle, c'est que sur la couverture d'ailleurs du numéro 31, quand il reprend la série en main, on voit John Byrne qui essaye de mettre un numéro 9 à la place
on s'est arrêté.
Ouais, et le gros doigt d'honneur, c'est que ça commence comme Dallas. Avec Bobby Ewing qui sort de la douche et qui efface toute une saison de Dallas qui n'avait pas plu au lecteur. Et là, c'est pareil, en fait. Elle s'est réveillée et s'est dit « Oh là là, j'ai fait un très mauvais rêve. Oh, heureusement, là, on repart. Burn, est-ce que tu peux me... » Je sais plus, je crois que c'est elle qui propose à Burn de l'habiller. Ce marrant aussi, c'est qu'elle l'appelle Burn. Elle l'appelle pas John.
Toujours
c'est
Burn.
Vraiment... effectivement, tu as un côté... C'est vrai ce que tu dis, ça fait un peu critique et Jiminy Cricket, et tu sais pas si c'est Burn qui est Jiminy Cricket de Miss Hulk ou c'est elle qui est son Jiminy Cricket. C'est assez profond finalement. La créature ou le créateur, c'est l'œuf ou la poule.
C'est un peu ça, ouais. Et c'est un des rares, maintenant qu'on le cite, le fait qu'il soit parti au numéro 8 et il revient au numéro 31, je crois, hein, 31. Je trouve que ça fait partie des très très rares retours d'un auteur sur une série qui fonctionne totalement. Moi, je préfère vraiment la deuxième partie de la série, enfin sa reprise, à la première. La première est vraiment bien, mais j'ai un côté, je pense que c'est parce qu'il y a Wayang Witu, des trucs comme ça. Hein. Pour le coup, ça fait vraiment partie des rares séries où l'auteur revient et en fait ne se caricature pas et continue sa route et fonctionne toujours aussi bien. Il y en a peu hein, comme ça.
Parce qu'il lâche pas le concept de base de continuer à jouer avec le quatrième mur là et de et toujours en allant plus loin, il va reprendre les personnages qu'il a introduits tout au début, et toujours partir avec des intrigues.
Il y a quelques sous-intrigues qui laissent tomber, mais on s'en fout.
Parce qu'elles ont été, surtout parce qu'elles ont été utilisées par ceux qui ont pris l'intérim. Hein, de Lex Luthor, le faux Lex Luthor, il a été utilisé,
c'est vrai,
et Hercule aussi. Hein. Mais on ne sait pas parce qu'on ne les a pas lus, mais on les avait peut-être lus à l'époque. Steve Gerber et Brian Hitch, hein, un jeune Brian Hitch, qui reprennent la série dans l'intérim.
Ce qui est amusant, c'est que Steve Gerber, en fait, il reprend pas mal de persos de Steve Gerber dans le début de sa série. Oui. C'est marrant qu'il l'ait mis en remplacement de John Byrne, parce que le Dr. Bong, les Headmen, tout ça, c'est des personnages de Steve Gerber, quoi.
Mm.
Donc, c'est assez amusant. Et puis, entre la première série, en fait, entre la première série d'épisodes et la deuxième série d'épisodes, il y a ce que fait John Byrne habituellement, par exemple, sur un gros run comme les Quatre Fantastiques, où le début, c'est vraiment des one-shots ou des épisodes en deux parties. Mm. Et ensuite, il se lance dans des sagas beaucoup plus longues. Il y a ça aussi chez Namor, il y a ça dans les Quatre Fantastiques. C'est un peu, tu sens que il fait quelques petites foulées, puis après il part pour des...
Ouais, mais je crois qu'il le dit même dans la série, il dit qu'il faut au moins 6 ou 7 épisodes pour la tenir, la série, pour que ça devienne vraiment intéressant. Je crois qu'il le dit clairement à un moment donné dans les épisodes. Donc son premier passage, c'est un petit peu le début du run, et puis quand il revient, c'est on passe à la vitesse de croisière et deux trois envolées comme ça où il va pas te gêner pour l'emmener aux confins de l'espace, quoi.
C'est chouette d'ailleurs. Moi j'aime bien quand il dessine les vaisseaux spatiaux là. Déjà sa voiture volante, je la trouve super cool. Et puis, il se fait plaisir parce qu'il mixe un peu du Jack Kirby, parce qu'il y a les espèces de collages à la Kirby, là, les photos en noir et blanc avec les...
Pareil, il y a un gag super avec ça.
Ouais.
Quand elle te fait justement le plan d'avant, on te dit, t'es en vitesse ultra-luminique, et elle regarde, et en fait, t'as juste un fond avec des étoiles, et elle fait, tu te casses pas le cul, là, c'est ma série, t'es intérêt à maintenant t'en tirer les doigts, et là, après, tu tournes et t'as une double page, juste, ça explose de partout à la Kirby, quoi. Ça, c'est le genre de truc qui... Bah ouais, c'est ça, Miss Hulk, quoi.
Et puis, t'as une armada de vaisseaux à un moment donné.
Ouais, à la Star Trek.
Ouais, voilà, il y a un côté Star Trek.
Ouais. Son costume aussi est assez cool, le costume qu'elle a quand elle est dans l'espace et tout. Avec l'espèce de grande bottine, là, et tout. Mmh. J'aime bien.
Cowboy de l'espace.
Ouais.
Non, c'est... J'avoue que sur la fin, sur les derniers épisodes, j'ai l'impression quand même que là, tu sentais qu'il se faisait moins plaisir. J'ai l'impression un peu comme une lassitude. Un peu sur les épisodes que Nova, au final, n'a pas publié.
Ouais, les deux derniers.
Ouais.
Mais je pense qu'elle devait pas être si simple que ça à faire, hein, la série, parce que trouver tous les petits ressorts comiques comme ça en jouant sur les règles sans que ça soit répétitif, sans que ce soit sans que ça tombe à plat, sans que c'est facile aussi de faire des blagues qui sont pas drôles, etc. mais il tient le truc jusqu'au bout, et je pense qu'il s'en va une fois que je pense pas que c'était une série si facile que ça à faire, même si il devait arriver en se disant je vais lâcher la pression, etc. Je considère ça quand même comme un exercice de style qui est pas des plus simples, hein, de faire une série comique comme ça.
Mais il finit quand même sur un numéro qui est exceptionnel.
C'est incroyable.
Le numéro 50.
Je voue aux gémonies Luc de pas avoir le numéro, parce que même si c'est des références il y a plein de références à d'autres dessinateurs, mais c'est super marrant quand même. Un épisode, faut expliquer, en fait, c'est Miss Hulk qui pense que John Byrne est mort, donc il va essayer de chercher un dessinateur pour reprendre la série, et donc du coup, elle passe en revue, il y a Dave Gibbons, il y a Frank Miller, il y a Howard Chaykin, il y a les Pini qui faisaient ElfQuest.
Walter Simonson
qui fait une parodie de son le son doum doum doum, mais c'est, ouais. En fait, c'est les talons hauts de Miss Hulk qui font le
doum doum doum. Bah Miller, ouais, ouais. Qui fait du Sin City.
Du Sin City, oui, c'était les débuts en plus de.
Ouais, parce ouais.
Que lui, Byrne va pas tarder à partir chez
Dark Horse.
Dark Horse pour
le label Legend.
Label Legend et qui est où il y a Sin City et X-Men. Il y a Adam Hughes, donc en fait, elle teste des maillots de bain.
Mmh. Ouais, parce que comme sa spécialité, c'est de dessiner des filles pulpeuses.
Ouais.
On a embauché Adam Hughes.
Et ça finit avec la petite She-Hulk, donc qui est la version miniature
oui, qui devait être le projet du 50e épisode ou 51e, mais c'est ouais. Pour ça qu'on a viré John Byrne.
C'est pour ça qu'on a viré John Byrne, et John Byrne est super fier de ce qu'il a fait. J'aime bien en plus comment il se présente, il arrive en disant « Ah, je vais tout révolutionner, tu vas voir, j'ai trouvé le moyen de mettre le titre dans une autre dimension. » Et c'est deux pas où c'est dessiné comme Casper le fantôme, quoi.
C'est super. Avec Doom sur un tricycle et tout. Enfin,
ouais.
Il y a aussi Howard Mackie hein, qui participe ouais. Pour une page dégueulasse. Mais... Ouais. où Bird explique que c'est l'encreur qui a réussi à sauver le truc. Dans l'autoparodie, Mackie. À l'époque, ouais. Je crois qu'il était en plein succès avec le Ghost Rider.
Ouais, et puis il était éditeur.
Ouais.
C'était son éditeur sur West Coast Avengers.
Okay. Il fait un peu tâche hein, autour de Chekin, Simonson, oui. Miller, Gibbons. Hein. Mais bon, c'est rigolo. J'aurais bien aimé voir Ward Chekin sur Miss Hulk, hein, je ne cache pas. Mais, je ne sais pas si ça aurait été accepté par le Comic Con, là, pour le coup.
Ouais, ouais. Oui, d'ailleurs, il repompe Black Kiss.
Ouais.
C'est les premières pages de tous les épisodes de la première série Black Kiss, avec juste un répondeur et c'est Miss Hulk qui... J'aime bien la photo où il y a John Byrne et Miss Hulk sur la même photo.
Oui, ça c'est très bon. Non, c'est vraiment super. Ça fait une belle clôture du truc. Hein.
Ouais.
C'est vraiment...
Vas-y.
Ouais. Je disais ouais c'est une belle c'est une belle fin. Des fois t'as ce qui est peut-être probablement un peu rare pour Burn où généralement il part un peu en claquant la porte d'un titre comme ça. Et c'est peut-être une des rares fois où il clôture son truc on pourrait dire un peu correctement, enfin en faisant un beau petit truc avant de partir quoi.
Ouais, c'est un départ élégant.
Un départ élégant, exactement.
Et pas je me casse au milieu d'une intrigue, des merdes.
Ouais, voilà, c'est ça. puis, c'est ce qui était un peu sa signature aussi.
Sa signature jusqu'ici.
Ouais,
le seul point noir, c'est qu'à un moment donné, il trouve une équipe pour le remplacer. Et, je crois que c'est les débuts de Popo Caca à la Marvel. Hein, parce que il y a une dizaine de pages, je crois, qui sont illustrées par la nouvelle équipe. Là, et c'est dégueulasse.
C'est compliqué. Hein. Ouais.
Ouais, et d'ailleurs, ils ne vont pas rester longtemps. Hein. Je crois qu'ils vont faire 2 épisodes, c'est pas vraiment l'équipe qui va
arriver. De toute façon,
il y a Pat Olive qui va travailler dessus et Popo Caca c'est les séries qui vont euthanasier assez rapidement ça. Comme on avait parlé d'Alpha Flight, mais bon, il y avait ça avait duré un peu plus longtemps Alpha Flight
était en soins palliatifs pendant longtemps.
Voilà.
Alpha Flight.
Mais ouais,
c'est clairement tu peux pas continuer à faire la même chose si t'es pas Burn quoi. T'as un lien entre la création et le créateur qui fait que si derrière tu veux faire continuer avec Missile, tu peux pas refaire la même chose. T'es vraiment obligé soit de refaire un truc sérieux ou de faire une autre approche, mais tu peux pas faire la même approche que fait Burn. Ça peut pas parce que il y a une synergie entre les deux qui fait que tu peux pas reproduire.
Il y a aussi le fait qu'on avait déjà vu ce que ça donnait Miss Hulk sans Burn entre le numéro 8 et le numéro 30 quoi. Et moi j'aime bien Steve Gerber comme scénariste, mais tu vois c'était une parodie de Batman quoi. Une parodie film Batman. Et c'était rigolo, mais c'était pas... justement, là, ça se forçait à être rigolo. En fait, ça se forçait à être drôle. Tout était forcé.
Ouais, tu sens qu'il n'y avait pas la passion du personnage. Tu sens que effectivement, il y avait un cahier des charges à abattre, alors que dans l'autre, c'était plutôt quelqu'un en roue libre.
C'est ça. Et moi, je me rappelle quand j'avais relu un peu cette période-là, je me dis c'est fou parce que donc on disait il y avait Brian Hitch à l'époque, et c'était en plus à l'ancrage c'était Paul Nieri d'ailleurs je crois.
Ouais. Enfin,
c'était vraiment du Brian Hitch. Mon influence c'est Alan Davis. C'est incroyablement. Et du coup en lisant ça je me dis j'ai l'impression de voir du Excalibur. Mais pas drôle en fait. Ça a rajouté au truc d'une série qui veut essayer de fonctionner, qui est jolie à regarder, qui est bien écrite, hein, non, mais ça c'est clair, hein, mais qui se force un peu à être drôle. Et qu'au final, tu rigoles pas comme quand tu rigolais avant, parce que t'as pas cette. J'ai envie de dire cette approche amoureuse que Burn a envers Miss Hulk, quoi.
Ouais. Ouais, c'est l'ingrédient secret qui fait que ça fonctionne parfaitement quand c'est John Byrne qui est en manette. Et par contre, quand il y en a d'autres qui s'y essayent, ça se casse la gueule. Parce qu'il n'y a pas... Voilà, il n'y a pas l'alchimie entre l'auteur et son personnage. Hein, comme on vient de gratter, on vient de voir que quand même, tu avais une belle interrogation entre qui est créateur, qui est le héros.
Quelle est la responsabilité que tu as quand tu es un auteur de comics par rapport à ces personnages, quoi.
D'ailleurs, vas-y, excuse-moi.
Tu auras un peu ce même genre de réflexion avec Grant Morrison, avec ses persos. Mmh. C'est-à-dire que, en fait, tu crées des univers, finalement, tu les fais vivre à travers ce que tu fais, à travers le regard des lecteurs. Et après, c'est toujours la complexité, c'est qu'est-ce que tu as envie de leur faire faire. Parce qu'effectivement, si tu veux continuer leur aventure, tu vas devoir les mettre en difficulté. Et c'est pour ça que la discussion entre Miss Hulk et Wyatt Wingfoot, elle est belle. Parce que tu as envie qu'ils soient ensemble, mais tu sais aussi que s'ils sont ensemble, ça va être barbant, quoi, au bout d'un moment. Plus on en parle, tu vois, plus je trouve que c'est une série.
dans la partie on fait pas n'importe quoi, il y a pareil au niveau de cet épisode où elle retrouve son père. Et donc son père lui dit rentre, toute ta famille t'attend. Elle fait t'as une pièce remplie, genre des cousins de cousins, des frères, des sœurs et tout. Et Wheezy qui lui dit bon, je savais pas que t'avais une famille importante. Il fait mais j'en ai pas, regarde l'affiche du Marvel Univers. Regarde, cousin connu, Bruce Banner, belle-sœur, Betty, 20 heures, mère décédée, tant, c'est tout, j'ai pas de frère et soeur, maintenant vous vous tirez. Et tu vois, c'est un gag hyper drôle, mais c'est aussi un truc pour dire, le personnage, tu n'inventes pas n'importe quoi. Elle a été définie comme ça, elle est solitaire, donc je vais pas sortir un frère ou une sœur de mon chapeau magique pour faire plaisir au lecteur, tu vois. C'est dans ça rejoint l'idée de la responsabilité de l'auteur sur le personnage, quoi.
D'ailleurs,
et en même temps, ça fait un gag super drôle, quoi.
Ouais, et puis d'ailleurs les personnages qui viennent, pareil, t'as des invités au dîner de Noël, et c'est visiblement c'est les personnages secondaires de la première série. T'as un des personnages qui dit moi j'ai gagné au loto. En fait, il leur donne une on sait qu'on les reverra jamais. Là ils sont là présents parce que c'est Noël et puis qu'elle est chez son père, mais en fait il leur donne une bonne vie, quoi. Lui il s'est marié avec il était amoureux de Miss Hulk, visiblement c'était pas réciproque, et du coup il s'est marié à son sosie. l'autre il dit j'ai hérité une fortune d'une tante que je connaissais pas.
C'est vraiment comme tu dis, plus on reparle et plus je me rappelle à quel point je comprends pourquoi j'adorais cette série et que je la lisais mais avec tu la lis, je voulais dire avec plaisir, mais plein de séries Marvel à une époque tu lis avec plaisir, mais il y a un truc différent, il y a vraiment quelque chose que aucune autre série n'a que t'as avec Miss Hulk, quoi.
C'est les tu restes dans les obsessions de l'auteur, en fait, finalement. Ouais. Il est là pour faire un pastiche de série de super-héros. Au final, le premier sur qui il tape, c'est lui-même. Mmh. Et après...
Il fait une des meilleures séries de super-héros.
Voilà, et en même temps, il va reprendre les règles qu'il faut utiliser quand tu fais une équipe de quand tu fais une série de super-héros. Ouais. Ouais. Donc forcément, ça fonctionne. Hein.
En fait, c'est une série où j'ai envie qu'il y ait que du bien qui arrive à Miss Hulk, tu vois, et que j'ai envie que tu sais, c'est une série où tu dis peut-être ça compte. T'as fini de la lire, mais en même temps, tu sens que ça continue ailleurs. T'as envie qu'elle continue ailleurs. Voilà, c'est en ça que je trouve que par rapport à d'autres séries où tu lis, c'est des grandes aventures, t'aimes tes personnages et tout, mais là, il y a un peu de quelque chose comme si tu avais lu les aventures d'une amie et que tu espères qu'elle va bien, quoi.
C'est ça qui Parce qu'elle essaye, elle essaye d'avoir sa vie quand même civile hors de ses aventures de super-héroïne, mais elle est tout le temps rattrapée par les aventures, etc.
En même temps, si tu lui arrives bien, elle prend une vie.
Ouais, il y a ça aussi. Mais tu sais qu'elle est. Ouais, c'est vrai qu'après, t'as quand même envie de continuer à avoir ses aventures et tu te prends d'affection pour le personnage. Hein. C'est assez.
Ah, totalement. Totalement.
C'est assez fortiche. Hein.
Oui, puis tu sens mais, bien que le côté avocate, c'est pas ce qui.
Ouais. Le seul truc, c'est qu'il lui met un patron qu'elle pense qu'il va devenir son love interest, mais. ouais. Tout de suite, il apprend qu'elle est mariée, il a deux gosses.
Ouais. J'adore. Une crise. Elle va pour s'entendre la case pour essayer de casser la tronche à merde. J'adore. C'est drôle. Non, c'est vraiment une série. Je surconseille la lecture, moi.
Ça se lit très facilement en plus. Hein.
Oui, et puis j'ai parce que le...
Vas-y.
Je voulais juste dire, c'est une série qui a jamais été égalée, quoi, dans cette idée de série qui casse le quatrième mur et tout. Pour moi, il n'y a pas mieux, en tout cas, niveau-là.
Ouais, non, c'est sans compétition. C'est haletant, c'est toujours rythmé, parce qu'il y a, comme on disait, il fait ses intrigues à tiroir, il y a toujours des rebondissements, toujours un méchant caché derrière un autre méchant. Donc, ça se lit d'une facilité... assez déconcertante. Et puis c'est magnifique hein, quand même. Hein. Faut quand même revenir sur la qualité des dessins qui sont. Voilà, vous aurez des John Byrne qui redessine des grands passages de Jack Kirby, qui se fait plaisir dans différents styles, etc., etc. Et les couvertures qui sont toutes excellentes. Hein.
Ouais, et puis du découpage vraiment inventif, comme le moment où elle rattrape une fusée au décollage. Et elle utilise Reed Richards qui se transforme en espèce de gros trampoline.
Ah oui.
Et vraiment, tu as des cases verticales où tu la vois décoller et ça te donne vraiment l'impression de deux mesures. Il est super doué à ça, en fait, à dépeindre des pouvoirs. Et puis en plus, là, c'est pas des pouvoirs. Tu vois, Miss Hulk, elle n'a pas des pouvoirs fantastiques, quoi. Elle est juste balèze. Et c'est ce qu'on se disait, tu vois, quand on a vu Black Adam. Où la description des pouvoirs, c'est hyper monotone en film. Là, c'est juste un mec qui vole et qui est fort. Là, c'est pareil, c'est juste en fait un personnage qui est hyper fort et il arrive toujours à, je sais pas, dans la façon dont elle porte, elle soulève, elle envoie.
Il y a même un épisode où il y a pas de méchant. Ou du moins ils n'ont pas défini le méchant, alors elle doit réussir à vaincre son ennemi, mais on ne sait pas qui c'est.
Ouais.
tu peux rajouter le nom de ton vilain préféré fois. Donc tu as quand même les scènes d'action et tout, mais sans voir son adversaire, quoi. C'est là que tu vois effectivement toute l'inventivité quand il met en scène les pouvoirs, quoi. Ben, je crois qu'on a fait le tour, non ?
Oh, totalement. Bah, oui.
Hein, on est d'accord. Faut le lire. Donc c'est sorti chez Panini sous forme d'omnibus.
Ouais.
Par contre, il n'y a peut-être pas le graphic novel dedans.
Exactement. Contrairement à la version, à la version américaine, l'omnibus français, il y a toute la série de Byrne, mais le graphic novel n'y est pas. Alors me demandez pas pourquoi, je ne sais pas.
On n'a pas beaucoup parlé du graphic novel, mais il est très bon aussi. Et au point de vue du dessin, c'est aussi assez impressionnant là, avec une description de l'héliporteur du Shield. En fait, tout le graphic novel se passe quasiment dans l'héliporteur.
Ouais.
Mais on a aussi Times Square complètement dégueulasse, le Times Square des années 80. Hein,
ouais. C'est une autre époque. Entre le graphic novel et la série, c'est une autre époque. Hein.
Ouais, ouais. Mm. Ouais, c'est plus sombre, c'est un peu plus glauque. Il y a cette histoire d'homme cafard là qui est.
Ouais. Puis elle se fait torturer quand même pas mal. Moi, ça m'a posé problème un peu, ça.
Ouais, c'est. Ouais,
c'est torture hors champ, là.
Ouais.
Ce qui n'est pas du tout le cas du reste de la série. Hein.
Non, voilà, ouais.
Il y a un ton
ouais.
qui est un peu différent dans le.
Parce qu'on est, en fait, dans le milieu des années 80, et que tu sens que c'est 85, tu vois, c'est juste avant Watchmen. C'est ce qu'on disait avec Secret Wars. C'est après Secret Wars, l'univers Marvel, c'est... effectivement, il y a ces moments de torture ou de tabassage qui sont moins. Qui sont moins sympathiques que les bastons, même destructrices auxquelles on a droit dans les comics Marvel classiques, quoi.
Totalement.
Là, il y a un côté beaucoup plus horreur, moi. C'est ce que j'ai en le disant, j'avais pensé à ce que disait Jérôme par rapport au fait que John Byrne, il maîtrise quand même assez bien l'horreur parce qu'il y a ce personnage là de cafard là qui un homme entièrement composé de cafards, c'est une espèce de clodo qu'ils ont téléporté par erreur sur l'héliporteur des Shields et qui va contaminer tout l'équipage, donc voilà, il y a un côté assez glauque quand même dans le, et ça préfigure un peu visiblement les événements de Nick Fury contre le Shield qui auraient dû avoir lieu genre quelques mois plus tard et puis qui finalement sont faits quelques années plus tard.
Ouais, il y a une première piste hein, là-dessus, effectivement, dans le graphic novel. On retrouvera aussi cette touche d'horreur dans les épisodes avec les zombies, la série continue où elle...
Les exhumés,
ouais, une parodie des X-Men en version zombie.
Ouais, c'est des zombies qui ont des vieux costumes des X-Men.
Et c'est des vieux personnages tombés au champ d'honneur, enfin dans différentes séries, je sais plus, il y a un des membres du Hellfire du Club des Damnés, il y a Mimic dont on avait parlé dans notre épisode sur les X-Men de Neil Adams.
Ouais.
Et puis je sais plus quel autre personnage, le diamant bleu, etc. Ouais. Et il va même leur redonner une noblesse aussi à ces personnages-là. Hein.
Mais tous, c'est ça qui est vraiment génial. Hein. T'en as pas un où tu te dis, mais en fait, contrairement à une approche comique beaucoup plus, j'allais dire, cynique que tu retrouves dans les années 90 ou peut-être 2000, ici, t'as une approche comique qui valorise toujours les personnages. Et quelque part, tu vois, il y a un autre truc, en revoyant aussi la série, je me dis, la série date du début des années 90, et parmi aussi les autres influences, je me demande aussi à quel point Claire de Lune, la série télé, a pas influencé le truc. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Claire de Lune, c'est une série télé de fin des années 80, qui a été écrite par... j'oublie son nom, mais avec Bruce Willis...
C'est Glenn Gordon Carron.
Voilà, mais j'avais un doute sur le nom. Avec Bruce Willis, qui n'était pas connu du tout à l'époque, et C.B. Shepherd, qui est donc l'histoire d'un couple, un détective et une top modèle à qui appartient l'agence de détective, qui enquête sur plein d'enquêtes. Le deuxième intrigue qui rajoute à ça, c'est l'intrigue amoureuse, de savoir est-ce qu'ils s'aiment et est-ce qu'un jour ils vont s'embrasser, parce que c'est je t'aime, mais en fait on claque les portes tout le temps et on s'engueule tout le temps. Mais la troisième intérêt de la série, c'est que c'était une série qui brisait le quatrième mur à quasiment chaque épisode. Tu avais un épisode qui commençait avec non pas les personnages, mais les acteurs qui parlaient à la caméra en disant aujourd'hui on va vous lire le courrier des lecteurs, mais pourquoi ? Parce que le scénario il était trop court et qu'il faut meubler un peu. Gag que reprendra Byrne d'ailleurs dans un épisode de Missouk où en fait l'intrigue se finit à l'avant-dernière page et la dernière page c'est lui en train de dessiner ou d'expliquer qu'il avait pu, il fallait écrire une dernière page. Voilà, et du coup je trouve que justement Missouk.
Il y a un épisode trop long aussi.
Oui, il y a épisode trop long et il démonte.
Ouais, ouais. C'est pas qui a fait le coup en fait à la fin.
C'est ça. t'as plein de et du coup c'est ça. Et du coup on retrouve cette ambiance là de ouais de faire l'humour mais pas au détriment des personnages, pas au détriment de ton histoire, mais au contraire en valorisant le tout. Et c'est hautement vraiment beaucoup plus jouissif, enfin je trouve. Beaucoup moins cynique. Ouais. Voilà ce que j'avais à dire pour conclure.
Voilà ce qu'on avait à dire, ouais. Sur l'Excellent Missile. Ouais, donc comme on vous a dit, disponible en omnibus, mais sans le graphic novel, visiblement. Voilà, donc ça vient d'être publié il n'y a pas longtemps, donc vous devriez trouver ça assez facilement. Ça vaut le coup d'œil, comme beaucoup ou quasiment la totalité, je pense, de la production de John Byrne, dont on va continuer à vous parler dans notre émission Burn Baby Burn, dont vous venez d'écouter le troisième épisode. On vous rappelle qu'on est dispo sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Vous nous trouverez aussi sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être averti dès qu'il y a un nouveau contenu qui sort. Tout ça, c'est gratos. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager aussi. Les amis, merci beaucoup d'être venus.
Ben merci.
Vous battez pas pour répondre.
Non, moi j'ai cru que Jérôme allait enchaîner parce que.
Non. Moi aussi, je croyais que t'allais. Voilà.
Ouais, habituellement, tu dégaines avant moi, mais là, du coup.
C'est vrai. J'étais sur une page de Miss Hulk encore et je rigolais tout seul dans mon coin.
Ouais, voilà. Je note qu'on n'a pas fait notre moment cool et notre moment qui craint.
Et oui, parce que je suis extrêmement fatigué. Ouais, il n'y a pas vraiment de moment qui craint. Bah oui, le moment, je vous dis, c'est le seul. C'est les pages qui sont dessinées par l'équipe de remplacement, hein, tout simplement. Mais bon. Et puis les moments top, je sais pas, il y en a tellement.
On a passé l'émission.
Ouais, l'émission, on voulait.
Il y a un moment génial à chaque page.
Voilà, exactement. Donc, ruez-vous sur cet omnibus. Hein, on n'a pas de cachet de Panini, mais. On vous le conseille quand même. Et voilà, bah, je vous rappelle qu'on a en ligne notre série qui s'appelle tout simplement Le Plein de Super, pour vous parler de tout ce qui n'est pas de John Byrne. Donc, dans le dernier numéro, on a parlé de Thor de Walt Simonson. Allez écouter ça. Et on a aussi notre série continue Avengers Rassemblement pour vous parler des Vengeurs des années 80. Tout ça, c'est dispo dans nos archives et c'est gratos. Voilà, on espère que ça vous a plu à écouter autant que nous à enregistrer et on se retrouve très bientôt pour d'autres aventures dans le monde merveilleux des comics. Ciao, bye bye.
Bye bye.